cours de philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Joseph le 27 octobre 1986.
Stoïcisme. dans les moments de décadence. Alors on croit qu'à force de pointiller, on pourrait y arriver. Le stoïcisme est une position, au point de vue moral, extrêmement intéressante à voir. Mais quand on s'intéresse à l'éducation, et on sait bien quels sont les grands éducateurs de l'Église, on s'intéresse au stoïcisme de façon particulière, l'aspect volontaire. C'est ça, c'est très très intéressant à voir. Et alors face au stoïcisme, l'épicurisme, l'épicure, dilettantisme, l'épicure, cette position esthétique est une grande position. Alors c'est plus du tout la vertu, le carpe diem. Aujourd'hui, il fait beau, allons nous promener, parce que demain il pourra pleuvoir, on travaillera. Ça c'est le carpe diem, vous voyez. C'est la morale de situation. Mais d'une situation intérieure, je suis en état euphorique aujourd'hui. Non, travailler c'est idiot, c'est simplement impossible. Je veux bien travailler quand je pleure, mais pas quand tout sourit autour de moi. Carpe diem. Ça c'est l'épicurisme. L'épicurisme va contre toute espèce de règlement. On dit tout règlement est quelque chose d'un formalisme idiot. La vie religieuse, c'est idiot. C'est un formaliste, un carcan. J'aime mieux être spontané. Alors, la spontanéité. Alors, on sanctifie la spontanéité comme c'était celle de Saint-Esprit. C'est très curieux, l'épicurisme. L'épicurisme a quelque chose de grand. Mais, je dirais, c'est une prospective immédiate, pas lointaine. C'est curieux, l'épicurisme est là, et le stoïcisme. Tout ça vient après Aristote, mais c'est deux formes de morale très importantes. Puis enfin, Plotin. Alors, je vous avais dit, Plotin, c'est la morale mystique. C'est le dépassement de la contemplation. Dans le silence. C'est une morale de l'intelligence, comme pour Platon, mais d'une intelligence mystique. C'est très grand, Platon. C'est la naissance du néoplatonisme. Et je vous avais dit l'autre jour, il faut bien comprendre que le néoplatonisme de Platon certaine synthèse de Platon, d'Aristote et des stoïciens. D'un cocktail très particulier. Mais c'est très fort et c'est très intéressant. D'une certaine manière, le néoplatonisme n'est pas quelque chose de nouveau. Ce sont des commentateurs. Platon est un commentateur. Un commentateur génial. Parce qu'il a une expérience propre. Mais c'est un commentateur du divin Platon. D'une théologie. Platon, c'est divin. Aristote, c'est beaucoup moins divin. C'est plus pour Platon, l'homme qui a analysé, dont on doit se servir. Et le stoïcisme a l'avantage qui nous montre cette domination de soi. Nécessaire pour arriver à l'union avec l'absolu. Je crois que ce sont les quelques grandes formes de la morale qui, d'une certaine manière, résument toutes les formes de la morale. Je crois. Alors ça, ce serait très intéressant, hein, comme topic historique, de bien saisir ces diverses formes de la morale qui nous montrent tout de suite, parce que c'est le propre de la morale, une vision particulière de l'homme. Dans une perspective moderne, c'est très intéressant de comprendre que la morale se fonde sur une anthropologie. Et la morale, en même temps, donne une anthropologie. Les deux C'est même très net quand vous dialoguez aujourd'hui avec des rabbins qui réfléchissent sur ce que représente la morale juive révélée. C'est toujours Moïse. Oui. Ce n'est pas Abraham. Abraham, c'est la foi. Isaac, c'est la foi. Jacob, c'est la foi, c'est l'alliance. Tandis que la morale, elle est donnée dans la loi. Et on peut dire que c'est cela qui a été gardé de la manière la plus forte. Or, Jésus nous dit qu'il vient dépasser la loi. Un au-delà de la loi. Pas la suppression, mais un au-delà. Et c'est là toujours la position très délicate des rapports entre la morale évangélique et la loi de Moïse. Ça a été tout le grand problème des pères de l'Église, jusque saint Thomas, perpétuellement. Et c'est encore le problème d'aujourd'hui, vous savez. Ça n'a pas changé. Vous avez une morale conservatrice de la loi. Et vous avez une morale qu'on pourrait dire dynamique des béatitudes évangéliques. Voyez, quand vous voyez le problème actuel de la théologie morale, on l'a vu avec acuité à Fribourg, et c'est pour ça que j'y ai beaucoup réfléchi. Parce qu'il faut le vivre, ça. Il faut le comprendre de l'intérieur. Je suis persuadé que le problème de la théologie de la libération repose là-dessus. On a cette position aujourd'hui. Oui, je fais tout de suite un bond vers la théologie morale d'aujourd'hui. On reviendra tout à l'heure sur la perspective philosophique. C'est que aujourd'hui, vous avez ce c'est la morale de la nature. La vraie morale chrétienne, c'est la morale de la personne. Alors vous opposez la morale objective de la nature à la morale subjective de la personne. Je grossis un tout petit peu, mais c'est bien cela. La morale objective de la nature, vous voyez, fait appel donc aux vertus, fait appel à la loi. Il y a une morale objective. Et la morale objective est très très nette. Tu dois faire ça, imprimée par la nature. La morale de la personne, c'est une morale qui consiste, quand elle s'oppose à la nature, je prends la morale de la personne en opposition avec la morale de la nature. C'est une morale, j'allais presque dire, de la situation. Vous ne pouvez jamais prescrire à une personne ce qu'elle doit vivre, puisqu'elle est au-delà de la nature. Et que c'est toujours un problème de conscience personnelle. Et donc vous ne pouvez rien prescrire. La loi demande d'être dépassée. Donc quand l'Église, par exemple, morale conjugale, qu'on ne doit pas se servir de la pilule. On dit, attention, oui, c'est très vrai, ça c'est moral ou la nature. Mais chaque circonstance est différente, donc faites attention. Et alors vous devez comprendre que chaque situation sont différentes, vous ne pouvez pas affirmer. Je pousse jusqu'au bout, mais c'était comme ça. On avait vécu ça à Fribourg avec la situation, la position d'un père Furtner, qui lui allait très loin dans ce point de vue de la morale de la personne, et opposant tout le temps morale de la personne, morale de l'individu. Je crois qu'il faut bien comprendre ça, parce que c'est très important. Et c'est vrai, le problème se pose dans l'Évangile. Au fond, crises divers et multiples. Et le pharisaïsme devant lequel on est dans l'évangile, c'est la loi. Et Jésus a l'air d'une liberté folle. Faire un miracle le jour du sabbat, alors qu'il aurait pu le faire le lendemain. C'est tout rageant. Faire un miracle le jour du sabbat, à quelques pas du temple, à la piscine de Bethsaida. Mais ça, c'est la morale de la personne, vous voyez bien. Si c'était la morale de la nature, il aurait respecté l'objectivité du sabbat. Et quand Jésus dit, le sabbat est-il pour la personne? Est-il pour l'homme ou l'homme pour le sabbat? illumination extrinsèque, ou est-ce quelque chose qui transforme le point de vue de la philosophie? Le levain qui vient transformer la pâte. La pâte, c'est la philosophie. Le levain, c'est chrétien. Alors, je crois que si vous mettez une philosophie chrétienne, vous n'aboutissez pas. Alors, vous avez ceux qui sont pour la philosophie chrétienne, ceux qui ne sont pas pour la philosophie chrétienne. C'est très curieux de voir ça à l'intérieur du thomisme. Je crois que la seule comprendre ça. C'est très très important. C'est la seule manière de pouvoir dialoguer avec un incroyant. Autrement, vous affirmez des choses qui l'irritent et qui le mettent de mauvaise humeur. C'est pas la peine. Il faut bien ça, le respect qu'on doit avoir vis-à-vis de l'incroyant, c'est le respect de son intelligence. Mais de comprendre que son cœur...
Yeah.
vrai, il y a là un dialogue extraordinaire entre Pélage et Saint-Augustin. Et comprendre comment Saint-Thomas dépasse cette espèce d'opposition pour mettre le primat de la grâce, le primat de l'amour qui commande toute sa théologie morale. Mais ce primat de l'amour, ce primat de la grâce ne supprime pas les efforts de la nature et la volonté, ne supprime pas la liberté. Alors, on est avec saint Thomas en face d'une théologie morale qui s'édifie dans la lumière de la foi. C'est pour cela que je ne peux que saint Thomas respecte l'autonomie de la philosophie morale et nous fait comprendre qu'il y a des liens difficiles à préciser entre la philosophie première et la morale, mais que c'est la philosophie morale qui est transformée par la foi et pas la philosophie première. Alors, immédiatement après saint Thomas, on peut dire que cette harmonie est brisée. Henri de Gand, Don Scott, Occam, cette trinité particulière qu'il ne faut jamais oublier, qui est très importante. Il y a une brisure. Il y a une brisure qui s'est faite. Pourquoi ? À cause de la condamnation des thèses thomistes en 1277 par la Sorbonne, pas par le pape. La Sorbonne a voulu être plus catholique que le pape. Aujourd'hui, il y a moins de danger. Mais de ce temps-là, la Sorbonne a voulu être plus catholique que le pape. Et alors, elle a condamné les thèses de saint Thomas, considérant que ces thèses de saint Thomas reposaient sur le païen. Tandis qu'Avicenne était un croyant. Il était musulman, mais il était croyant. Tandis qu'Aristote est un païen. Il n'y a pas la foi. Et donc, il faut revenir à Avicenne. Et ce qu'a fait Henri de Gand ? Henri de Gand est revenu à Avicenne. Don Scott a essayé d'unir les deux. Henri de Gand et Thomas d'Aquin. Et puis, Occam, lui, est revenu à Aristote. En voyant le primat de lui. C'est très curieux de voir ça. Alors c'est intéressant parce qu'à partir de là, cet équilibre si difficile à comprendre entre la philosophie première et la métaphysique est brisé. Il y a là une très grande brisure au point de vue profond, au point de vue de la pensée. On a opposé alors à ce moment-là l'esprit.